Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre du cycle Vivre durable, ainsi qui est proposée par le service Savoir pratique de la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, la rencontre est intitulée « Voyager autrement ». On va donc s'intéresser au tourisme durable. Nos deux intervenants sont Bernard Chéou et Sylvie Brunel. Et la rencontre sera animée par Aurélie Luneau, à qui je passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, bonne rencontre.
Merci Chloé, merci à Renaud Guis qui assure techniquement cette diffusion en live, sous forme numérique, en public. Et merci à vous tous d'être présents avec nous ce soir. Et je rappelle pour tous ceux qui voudraient poser des questions que vous pouvez le faire sur le post Facebook de la BPI. Et vos questions seront donc relayées. Nous les poserons directement à nos invités juste après la conférence. En tout cas, vraiment ravie d'être avec vous en direct pour cette conférence proposée par la BPI sur le thème donc, « Voyager autrement, quel tourisme durable ?» Depuis déjà quelques temps, la planète en surchauffe pousse l'humanité à reconsidérer ses façons de vivre, de produire, de consommer. Et si la pandémie de Covid-19 a un temps laissé augurer un après plus durable, aux bonnes résolutions ne succèdent pas forcément les actions appropriées. Quoi qu'il en soit, la situation nous a forcés à questionner nos déplacements et à réfléchir peut-être plus concrètement à la notion de voyage, car nos modes de déplacement entraînent des effets directs ou indirects sur le réchauffement climatique ou bien sur les écosystèmes à l'échelle d'une planète où tout est, faut-il le rappeler, mondialisé et où la notion de distance est vite effacée d'un simple coup d'avion. Comment être citoyen du monde tout en étant citoyen responsable? Le tourisme de masse est-il voué à disparaître? Qu'appelle-t-on tourisme durable et solidaire? Comment voyager en respectant la planète, les cultures et le vivant? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos deux invités ce soir. Bonsoir Sylvie Brunel.
Bonsoir Aurélie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, économiste, écrivain, professeur à Sorbonne Université et ancienne présidente de l'ONG Action contre la faim. Je précise que vous êtes auteur de livres, mais on peut citer notamment La planète Disneylandisée pour un tourisme responsable, livre paru chez Sciences Humaines, et apparaître en septembre un cahier spécial sur le tourisme, publié donc un cahier français. C'est de la documentation française. Je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu plus que ce que je viens de faire.
Vous voulez que je rentre tout de suite dans le vif du sujet?
Ah ben, allez-y, oui.
D'accord. Alors, ce qui est très intéressant dans la rencontre d'aujourd'hui, c'est comme vous le savez, le tourisme a longtemps été accusé, et il est toujours accusé. On dit qu'on est passé de l'usage du monde de Nicolas Bouvier à l'usure du monde, c'est-à-dire à tous les dégâts provoqués par ce tourisme qu'on qualifie de masse. Mais ce qui s'est passé depuis plus d'un an, c'est que le tourisme s'est arrêté dans un grand nombre de pays, y compris d'ailleurs la France, qui était la première terre d'accueil des touristes, avec 89 millions de visiteurs en 2019. Et du coup, je pense qu'il est intéressant d'avoir ce débat, parce que ça nous amène à reconsidérer, à questionner notre relation au tourisme. Pendant très longtemps, on a vu dans un grand nombre de lieux touristes go home, comme à Barcelone par exemple, et puis le cri aujourd'hui c'est touristes come back, revenez, parce que la situation, il y a eu un véritable effondrement économique et aussi en termes d'emploi. Plus de 100 millions d'emplois ont été perdus dans le monde. 100 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté à l'échelle mondiale. 1 million de personnes supplémentaires en France. Donc il y a eu toute une interrogation sur est-ce qu'on recommence comme avant ou est-ce que finalement cette pandémie n'est pas un moment où on va s'interroger sur les façons de retrouver un tourisme, mais un tourisme qui soit plus respectueux des écosystèmes, plus respectueux des populations locales, plus respectueux aussi du foncier, de la répartition de la manne, enfin toutes ces questions sur lesquelles Bernard travaille. Et je pense, pour ma part, que le tourisme reste un formidable atout, notamment pour les pays en développement. Pour 42 pays dans le monde, il est la première source de revenus. Il est un facteur d'émancipation féminine, il est un facteur d'affirmation des identités locales. Même cette fameuse nature dont on disait qu'elle avait repris ses droits pendant les confinements, mais finalement on se rend compte qu'elle a aussi souffert dans un grand nombre de lieux. Donc voilà, ce sont les questions que nous allons aborder ensemble et merci d'avoir organisé cette rencontre, Chloé et Aurélie.
Et merci aussi Sylvie Brunel d'être présente avec nous parce qu'effectivement la richesse de vos travaux et ce que vous donnez à comprendre depuis des années va pouvoir nous éclairer, notamment dans ce moment que l'on traverse, effectivement cette pandémie qui nous amène à repenser autrement notre façon d'être, de consommer, de produire et de voyager. Bonsoir Bernard Chiou.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant et chercheur, spécialiste du tourisme, auteur du livre « Du tourisme durable au tourisme équitable », un livre paru chez De Boeck. Et je vous laisse également vous présenter peut-être plus avant, parce que vous avez eu aussi d'autres casquettes et vous en avez d'autres en dehors de celles que je viens de mentionner. Et puis ensuite, vous pourrez nous faire profiter justement d'un PowerPoint que vous avez préparé.
Oui. Alors, pour compléter, je suis impliqué militant, bénévole dans le tourisme équitable, au sein notamment de l'ATES, qui est l'Association pour un tourisme équitable et solidaire, un collectif d'opérateurs de tourisme équitable, pour préciser. Alors, oui, j'ai eu envie, en fait, de profiter de ce premier temps de parole pour rappeler quelques points clés qui favorisent la prise de conscience de l'urgence à voyager autrement. Alors, je n'ai pas envie de plomber l'ambiance en ce jour de fête de musique et puis de relâchement de fin de confinement, mais bon. Premier point dont j'ai eu envie de parler, c'est déjà de dire qu'on vit dans un monde fini. Donc là, je sors un petit peu du tourisme, hein, mais pour un contexte hein, dont les ressources sont limitées et on n'a pas d'autre choix finalement que d'en tenir compte dans nos comportements. Donc, il y a un documentaire récent là, qui s'appelle « Notre planète a ses limites, l'alerte de la science » qui porte sur les différents points critiques pour la Terre que nous ne devons dépasser sous aucun prétexte parce qu'après, il y a des irréversibilités qui se mettent en place. Et donc, dans le documentaire, les scientifiques, je ne vais pas vous lister tous ces points, mais ils identifient 9 points de non-retour. Et donc, ils disent qu'il y en a 4 qui sont déjà dépassés et 2 en passe de l'être. Donc, au-delà, on sera en position difficile. Et l'homme, il a quand même réussi ce tour de force en seulement quelques dizaines d'années sur, en gros, 200 000 ans d'existence si on remonte à l'apparition d'Homo sapiens. Donc, notre influence perturbatrice, elle est quand même telle qu'on parle... C'est en discussion, c'est-à-dire que c'est pas encore établi, mais on parle d'une nouvelle ère géologique qui s'appellerait l'Anthropocène parce qu'on marque de manière indélébile les couches géologiques. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu illustrer avec cette image. Ensuite, en ce qui concerne le changement climatique, donc je dirais qu'il est évident que les ambitions de limitation de l'accord de Paris, donc à moins de 2 degrés, 1,5 pour 2100, on n'arrivera pas à les tenir, on le sait aujourd'hui. Hein. Et pour visualiser pleinement les conséquences, parce qu'on a du mal à se rendre compte que ce que ça veut dire, le changement climatique, puisqu'on parle de 1 degré, de 2 degrés, on se dit, c'est pas tant que ça. En fait, c'est une moyenne. Et donc j'ai voulu utiliser en fait l'image qu'utilise Jean-Marc Jancovici, donc le scientifique, hein, et lui il pose la question 5 degrés, est-ce que c'est juste un pull en moins, et il compare ce qu'était 5 degrés en moins, puisqu'on l'a connu dans l'histoire, et donc quand il y avait 5 degrés en moins en Europe, c'était l'ère glaciaire. Donc 5 degrés en plus en moyenne sur la Terre, hein, ça veut dire un monde invivable, chaotique. Et à ce moment-là, la question de se déplacer, de faire du tourisme, elle se posera même pas si on est à 5 degrés de plus. Et 5 degrés de plus, c'est la tendance actuelle si on continue comme maintenant. C'est-à-dire si on ne prend pas de mesures sérieuses, c'est ce qui nous attend. On peut aussi se poser la question de la responsabilité du tourisme dans le changement climatique. Et là, l'ADEME, qui est donc l'Agence de française de la transition, elle vient de publier un bilan des gaz à émissions de serre du secteur du tourisme en France, en les répartissant par source d'émissions. Donc, ils ont calculé ça sur des données de 2018, donc c'est avant la pandémie. Et le total donc, du secteur du tourisme, c'est 118 millions de tonnes équivalent CO2. Donc on ne sait pas forcément on n'a pas forcément une idée de ce que ça peut représenter. Alors pour en avoir une meilleure idée, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la même chose que les émissions sur un an de 11 millions de Français moyens, donc leur comportement moyen, ou la même chose que les émissions des populations cumulées d'Île-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Bretagne. Alors les trois quarts, on le voit sur le graphique, proviennent des déplacements et 40% de l'aérien, d'après ce bilan. Et puis ce qu'on peut dire aussi, qui est peut-être important à signaler, c'est que le tourisme pèse plus en France, donc le secteur, d'après ce bilan qui a été établi donc par l'ADEME, il pèse plus en émissions de gaz à effet de serre, 11%, qu'en poids dans le produit intérieur brut, qui est de 7,4%. Donc en résumant, on peut dire que sa nuisance climatique est supérieure à sa contribution au PIB. Alors, selon le GIEC, hein, si on veut limiter la hausse à 1,5 degré en France, ça veut dire passer de 10,5 tonnes par personne à 3,7 tonnes en 2030. Donc la réduction, elle est énorme. Hein. Ça veut dire vraiment changer de comportement. Il y a un cabinet qui a essayé de simuler un petit peu ce que ça représenterait sur nos modes de vie. Alors je ne vais pas tout vous lister, c'est un cabinet qui s'appelle BL. Mais simplement pour les vols aériens, ça veut dire moins 72%. Des vols, donc ça veut dire vraiment avoir des mesures, donc par exemple limiter très fortement les vols long courrier. Alors dans le point suivant, je voulais mettre l'accent sur le fait que nous sommes terrestres, nous sommes des êtres terrestres, on est obligé de faire avec la Terre, on est obligé de composer avec elle. C'est pas quelque chose dont on peut se séparer, hein, elle fait partie de nous au même titre qu'on fait partie d'elle. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il nous n'est pas possible de fuir dans l'espace pour aller y vivre. Hein. On peut avoir envie de croire dans ce que nous raconte Jeff Bezos ou Elon Musk, qui ont des projets assez fous de ce point de vue-là. Hein. Le premier, il envisage de construire des colonies spatiales de 1 million d'habitants. Pour eux, ce sont des projets sérieux. Et Elon Musk, il prévoit sur Mars une ville, de construire une ville de 1 million d'habitants également. Donc, alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que quand je dis que nous sommes terrestres, c'est que pour l'instant, on ne peut pas vivre d'un point de vue physiologique. On ne peut pas. C'est difficile de vivre dans l'espace. Hein. Les astronautes sont les premiers à en expérimenter les extrêmes difficultés. Et même si un jour c'est possible, comment ne pas voir que finalement, c'est que la poursuite de l'imaginaire de transgression des limites, de démesure orgueilleuse, qui nous mène déjà actuellement à vitesse grand V vers la catastrophe écologique finale. Donc à propos de cet imaginaire, pour terminer, j'ai envie de partager avec vous deux citations lues dans la presse il y a quelques mois, en avril. Donc la première, elle est de Serge Audier, qui enseigne la philosophie à la Sorbonne. Et donc, vous pouvez lire la citation. Hein, il dit « Entrer dans une société écologique, c'est sortir de la folie de l'illimité et de la domination. Ça suppose un choix de civilisation qui rompe avec l'imaginaire de la compétition, des classements et du fric. Cela implique également d'inventer de nouvelles formes de sociabilité. » Alors, c'est dans une interview au journal Le Monde hein, que j'ai extrait cette citation. Et si vous lisez la totalité de l'interview, il considère, lui, que le moment est favorable pour remettre au goût du jour des valeurs comme l'interdépendance, la mutualisation et la coopération qui avait particulièrement cours au niveau politique au XIXe siècle. Et puis l'autre, la deuxième et dernière citation que je voulais, avec laquelle je voulais terminer, toujours à propos de cet imaginaire, hein, elle fait écho à la première, mais dans des mots complètement différents, puisqu'il s'agit du réalisateur et acteur Albert Dupontel. Hein. C'était pour justifier son absence en fait à la dernière remise des prix des Césars. Hein. Son film Adieu les cons y a été primé plusieurs fois. Et donc pour justifier cette absence, il dit « Je dirais que géopolitiquement être le meilleur, c'est quelque chose qui est en train de faire fondre la planète. Toutes ces multinationales, ces produits, ces hommes d'affaires qui veulent être les meilleurs. Le résultat, c'est que la banquise fond et on se chope des virus. Donc ça serait bien d'arrêter d'être le meilleur et d'être juste soi-même. » Donc, ce qui est surligné, en fait, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Ce n'était pas évidemment dans les citations. Alors moi, je suis convaincu, comme Serge Audier, comme Albert Dupontel, hein, que pour éviter la catastrophe écologique qui s'annonce, on n'a pas d'autre possibilité que d'essayer de nous désintoxiquer. C'est pas facile, hein, de l'imaginaire qui nous y précipite. Et qui repose, comme il le dit, sur la compétition, les classements, l'obsession de la croissance quantitative, l'avidité qui guide trop souvent les choix dans beaucoup de domaines et pour beaucoup d'acteurs, et que la solution, elle passe par la mise en avant de valeurs de solidarité, de coopération, par l'invention de nouvelles formes de sociabilité, par le fait d'essayer d'être juste soi-même, ce qui n'est pas facile. Et ça, vous pouvez me dire, quel est le lien avec le tourisme ? Moi, je dirais qu'en fait, hein, je trouve qu'on a là des clés pertinentes pour orienter le tourisme dans un sens plus éthique. Arrêter de courir pour être le meilleur, pour avoir encore plus, et plutôt miser sur la production de richesses sociales grâce à de nouvelles formes de sociabilité, être juste soi-même. Tout ça, donc, c'est un petit peu viser un triple équilibre, hein, un équilibre intérieur, un équilibre dans ses relations avec les autres et aussi dans sa relation avec l'environnement. Voilà. Merci. Pour ce premier temps de parole, j'espère que je n'ai pas été trop long.
Non, mais justement, je rebondis sur votre temps de parole, Bernard Chéou, et je me tourne vers Sylvie Brunel, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que véritablement le tourisme de masse est voué à disparaître ? Il faut quand même rappeler que ce tourisme de masse, c'est un phénomène inséparable du développement et des offres low cost, mais aussi de la démocratisation du tourisme. Donc c'est aussi la possibilité donnée à des classes sociales d'aller vers l'ailleurs et de se sentir exister par le voyage, hein, se déplacer pour beaucoup c'est être au monde. Alors est-ce que c'est une réalité ou un mirage? Je sais que Bernard Chéou aura des choses à nous dire, mais Sylvie Brunel, voilà, est-ce qu'on peut imaginer facilement rompre avec ce tourisme de masse, et est-ce une solution imparable, ou est-ce que c'est une des solutions?
Alors, nous, occidentaux, ayant fait le gros des flux touristiques pendant très longtemps, nous sommes aujourd'hui en train de nous interroger sur le tourisme à portée de main, la micro-aventure, les mobilités douces, le fait de redécouvrir son univers familier. Et d'ailleurs, en France, il y a énormément aujourd'hui de destinations qui sont en train de réfléchir pour à la fois continuer à susciter la fréquentation, mais la faire différemment, en lissant l'offre sur l'année, en permettant des moyens d'arpenter le monde sans utiliser des méthodes lourdes, des méthodes destructrices, en faisant signer des chartes. Alors, nous sommes effectivement engagés aujourd'hui dans un très grand processus de réflexion. Mais il ne faut pas oublier quand même que le tourisme, au départ, était une activité réservée à une élite. C'était le grand tour des aristocrates anglais. Qu'elle va se démocratiser, bien sûr, d'abord en Occident, avec l'avènement des congés payés en 1936. Le dimanche, il n'existait pas jusqu'en 1908. On n'était pas, c'était pas férié. Et puis, progressivement, eh bien, il va accompagner ce qu'on appelle la moyennisation du monde. C'est-à-dire le fait que les populations pauvres quittent le sous-développement pour entrer dans les classes moyennes. Et c'est ce tourisme-là, aujourd'hui, qui augmente extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'on aurait dû avoir 1,6 milliard de touristes en 2020 s'il n'y avait pas eu la pandémie. Et ces touristes-là, ce sont des gens qui aspirent à une mobilité choisie, à une mobilité pacifique, pour enfin ils ont un salaire, enfin ils ont du temps libre, enfin ils peuvent donner libre cours à leur découverte du monde. Donc leur dire, non, vous êtes un tourisme de masse et vous êtes en train de détruire la planète, donc niette, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse parce que si l'on regarde par exemple la France, donc première terre d'accueil du tourisme au monde avec 89 millions de personnes, on n'a pas ces phénomènes de massification, de destruction des écosystèmes, parce que justement la France s'interroge sur la régulation des flux. Donc la réflexion qui est menée aujourd'hui, c'est comment essayer d'accompagner cette émergence des classes moyennes pour qu'il n'y ait pas 95% de personnes dans 5% des lieux de la Terre, et que et ces lieux qui croulent sous une surfréquentation. Et ce qu'on observe, c'est des phénomènes à la fois de dissémination, de diffusion, c'est-à-dire essayer de partir de ces îlots qui sont des îlots concentrationnaires pour inciter les touristes à faire autre chose que la Tour Eiffel, que Disneyland. Je pense par exemple aux touristes touristes chinois, les inciter à découvrir d'autres lieux, sachant que ce mouvement de dépenses pour la consommation de loisirs, c'est aussi un mouvement qui a... Et Bernard a eu raison, bien sûr, de parler des effets négatifs, mais il faut aussi dire que cela représente 10% des emplois mondiaux, que ce 2/3 des emplois touristiques sont assurés par des femmes, et c'est souvent pour elles un facteur d'émancipation, que c'est un facteur aussi de reconnaissance de sa culture, parce que souvent les lieux sont détruits tant que le touriste ne s'y intéresse pas. Je vais vous donner un exemple. Uluru, le rocher rouge des aborigènes au cœur de l'Australie. Uluru n'intéressait personne jusqu'au moment où le regard touristique a découvert la culture aborigène. Et aujourd'hui, vous savez qu'il est interdit de grimper sur Uluru. C'est-à-dire que la valeur sacrée de Uluru à Lyre's Rock a été reconnue. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas se dire... On va interdire le tourisme parce qu'on va pas interdire le développement et l'envie de connaître le monde, mais on doit, que ce soit dans l'aviation, aujourd'hui l'aviation s'interroge sur des modes de fonctionnement qui ne soient pas facteurs d'émissions de gaz à effet de serre, sur d'autres avions. Moi je suis pas convaincue que nous soyons dans un monde fini, parce que en géographie on dit les ressources ne sont pas, elles deviennent. C'est-à-dire qu'une ressource est toujours virtuelle tant qu'on n'a pas le moyen de la mettre en valeur. Les déchets, ben, peuvent devenir des ressources. Et donc, je pense qu'il faut au contraire se retrousser les manches pour se dire partout, OK, il y a un problème, on ne peut pas le nier. Quelle réponse on apporte ? C'est le tourisme équitable, c'est le tourisme solidaire, c'est le tourisme responsable. Et même les très grosses entreprises... comme le Club Méditerranée, qui a été le premier à mettre en place une centrale de d'épuration des eaux à l'île Maurice en 1973. Même ce grand voyagiste, ou surtout ce grand voyagiste qui est voyageur du monde en France, toutes ces institutions aujourd'hui, eh bien, elles s'interrogent justement pour que cette activité soit perçue d'abord comme positive, c'est-à-dire finalement ce bonheur de rompre avec le temps de travail, ce bonheur d'avoir un temps de vacances, un temps où l'on, souvent d'ailleurs, on le consacre aussi à la culture, parce que c'est pendant qu'on est en vacances qu'on se rend à la découverte des autres cultures et des autres civilisations. Eh bien, comment faire que ce temps soit positif pour la planète et non pas négatif ?
Et oui, parce que c'est quand même toute cette question, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'est plus temps d'attendre, que beaucoup demandent une politique à grands pas et non plus la politique des petits pas, parce qu'on est face à l'urgence climatique. Le réchauffement, lui, est en cours. Il faut quand même réagir. Et c'est vrai, Sylvie Brunel, comme vous dites, il y a des réflexions sur l'avion de demain. Mais l'avion solaire ou l'avion à hydrogène, ce n'est pas pour demain ou tout de suite. Donc ça pose la question, effectivement, de qu'est-ce qu'on fait ? Comment on voyage et autrement, ça veut dire quoi ? Bernard Chéhoux, c'est quoi quand on parle d'un tourisme durable et solidaire, d'un tourisme éco-responsable et social ? Parce qu'on a compris qu'il fallait que tout soit lié. Comment on fait aujourd'hui, demain, en attendant justement peut-être d'autres moyens de voyager ? On n'a pas parlé des bateaux, mais les bateaux posent aussi un énorme problème en matière de pollution et de gaz à effet de serre aussi.
Oui, mais alors, excusez-moi, pardon, juste Bernard, une seconde. Oui. Cette année, les trophées du tourisme durable ont été accordés à Ponant, qui est en train de se débarrasser du fioul lourd sur ses bateaux, vous voyez, qui essaie de
donc
mettre
y a
en
des
place
initiatives,
une politique.
Hein.
Oui, alors après, c'est un tourisme très haut de gamme, c'est extrêmement cher, donc il faut faire très attention à ce qu'on ne verse pas dans l'élitisme. Il ne faut pas oublier que le touriste, c'est toujours nous d'ailleurs, on est toujours le touriste de quelqu'un, mais c'est aussi l'expression de la démocratisation du monde.
Bernard Chéhoux, allez-y.
Donc, alors, la question, c'est qu'est-ce que serait un tourisme durable, un tourisme solidaire ? Alors, on a des expressions qui sont différentes. Hein. Tourisme solidaire, si je dois parler du tourisme solidaire, on a quelque chose qui est très proche de ce qu'est le tourisme équitable, hein, qu'il est difficile de distinguer. Tourisme solidaire, il y a beaucoup de confusion, donc peut-être que pour éviter ces confusions-là, il faut préciser que ce n'est pas du tourisme humanitaire, ce n'est pas des chantiers. Des confusions qu'on va retrouver dans la presse, hein, ou dans le public, c'est vraiment du tourisme. C'est des gens qui partent en vacances, ils partent pas pour travailler, ils vont. La solidarité, elle va s'exprimer par le choix de l'opérateur, de l'association de tourisme, comme des membres de la Thès ou d'autres, qui ne sont pas forcément dans ce collectif. Et donc, en général, il y a une solidarité parce qu'il y a le financement éventuellement de projets de développement dans la destination. C'est un tourisme qui repose sur la rencontre, qui est fait en petits groupes. Voilà ce qu'on peut dire comme ça rapidement. Est-ce que c'est une solution ? Je pense que c'est compliqué de diaboliser le tourisme de masse, hein, s'il y a bien montré dans son intervention. Je pense qu'il est difficile d'avoir une approche manichéenne et d'essentialiser les formes de tourisme et de dire le tourisme de masse, il est forcément négatif et un tourisme solidaire ou équitable, il est forcément positif. Effectivement, le tourisme équitable, il y a une volonté d'avoir des relations équitables, équilibrées avec les partenaires, avec la destination. Mais il y a aussi des problèmes qui peuvent se poser. Et le tourisme solidaire ou équitable, ils vont faire appel aussi aux infrastructures qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour les transports par d'autres formes de tourisme. Donc la situation, elle est compliquée. Puis dans le tourisme de masse, par exemple, je ne sais pas, moi, je viens de Perpignan, Argelès, la station littorale qui est juste à côté, vous avez, c'est celle qui a le plus de campings en France. Donc vous avez une très très grosse fréquentation. Donc on pourrait parler de tourisme de masse pour désigner l'été, cette fréquentation-là. Mais en même temps, vous avez des exploitations agricoles bio, d'agrumes par exemple, et ils vont vivre grâce à cette fréquentation-là touristique. Donc moi je suis pas pour diaboliser. Effectivement, hein, il y a des formes qui sont préférables, mais la situation elle est complexe. Et je suis d'accord quand il est dit que il faut éviter l'élitisme. Donc c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faut essayer à la fois d'arriver à proposer des formes de tourisme qui soient accessibles à tous. Alors il faut peut-être revoir les questions d'aide au départ ou autres. Et en même temps, éviter qu'il y ait trop de monde qui parte. Mais si on regarde ce qui se passe, hein, les Français par exemple... Hein, ils sont seulement 12,5% les derniers chiffres officiels publiés, si on prend le nombre de voyages réalisés. Donc c'est en 2017, il n'y a pas eu de chiffres publiés depuis, donc c'est avant la pandémie. Vous avez seulement 12,5% des voyages qui concernent l'étranger. C'est rien du tout. Et si vous prenez ces voyages-là qui concernent l'étranger, il y en a 80% qui se font en Europe. Donc en fait, il n'y a que les Français, ils partent très très peu. À l'étranger, c'est ceux-là en fait qui vont avoir beaucoup d'effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et je pense pas qu'on puisse dire que ce soit des classes moyennes ou populaires ceux qui ont cet effet-là. Donc il y a peut-être aussi des choses à regarder de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut dire que la pandémie a eu un effet, a changé quelque chose? Alors, il y a différents niveaux, hein, c'est-à-dire changer dans les mentalités des citoyens, tout d'abord. Est-ce qu'on peut attendre de cet arrêt brutal du monde une réinvention de la société et un changement de paradigme sociétal ? Et d'un autre côté, du côté justement des décideurs, des pouvoirs publics, il y a la volonté quand même de relancer l'économie. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'une relance de l'économie peut se faire en respect justement d'un tourisme qui ne soit pas polluant et donc qui n'ait pas des conséquences en matière d'enjeux environnementaux. Sylvie Brunel.
Alors, il y a effectivement, en ce moment, c'est un secteur qui est en pleine effervescence. Tout ce qui est mis en place... Alors, on va parler de la France, mais avant de parler de la France, ce que je voudrais quand même dire sur, par exemple, les pays africains, c'est qu'un touriste donne de l'emploi à 15 personnes, 20 personnes. Donc, quand il n'est pas là, c'est absolument dramatique. Et ça veut dire que ce ne sont pas du tout... On n'a pas de relais locaux parce que les pouvoirs d'achat locaux se sont effondrés aussi. Donc, ça veut dire des gens qui partent. Des femmes qui sont renvoyées à la maison, des crises de faim. Hein, beaucoup de populations africaines ont dit « nous préférons le virus à la faim ». Laissez-nous continuer à pouvoir avoir des activités. Donc c'est la fin de l'artisanat, la fin des guides. C'est dans les parcs naturels aussi des animaux qui sont consommés parce que le tourisme de vision n'est plus là. Donc finalement, ils ne sont pas préservés. Ce sont des chevaux, moi je suis très attachée aux chevaux, ce sont des chevaux au Bangladesh qui meurent de faim dans des stations touristiques parce que les familles n'ont plus rien à manger, elles ne vont pas nourrir leurs chevaux. Ce sont aussi des animaux qui étaient nourris par les touristes et qui deviennent agressifs. Même les écureuils de Central Park sont devenus agressifs. Donc, vous voyez,
c'est la raison pour laquelle vous dites que finalement, durant la pandémie, on a dit la nature reprend ses droits.
Oui.
Vous vous dites finalement la nature a aussi
souffert. Aussi, parce qu'il y a eu aussi des dégradations d'écosystèmes, de parcs qui étaient préservés par le fait que l'écotourisme apportait des revenus à des populations qui se sont remis, il faut bien le comprendre, à braconner, à tuer, parce qu'elles n'avaient plus le choix. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors, en France, ce à quoi on réfléchit... Alors, d'abord, dans les pays du Sud, beaucoup de pays essaient aujourd'hui de sécuriser l'accueil des touristes. C'est-à-dire en disant, c'est ce que font par exemple les Maldives, en disant, vous pouvez venir faire, on a parlé beaucoup du travail à distance, donc venez chez nous, la population est vaccinée. Bon, en fait, c'est le vaccin chinois, puis c'est pas aussi bien qu'on croyait, mais bon, la population est vaccinée, donc c'est les tests, les traitements la traçabilité, et vous pourrez à la fois travailler, mais vous aurez une très bonne connexion Internet, donc c'est les nomades digitaux. Donc il y a des pays qui se positionnent comme ça. Moi, j'ai très peur que de nouveaux murs invisibles se dressent entre les pays qui auront eu accès à la vaccination et qui pourront créer un environnement sain et donc renouer avec les flux touristiques et ceux qui... On sait très bien que les touristes veulent la sécurité sanitaire, la sécurité politique et la sécurité sanitaire. Et ceux que l'on va fuir, on a bien vu en 2014, il y a eu Ebola sur un toute petite partie de l'Afrique, c'était à la frontière entre le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, c'était un tout petit carré, et toute l'Afrique a été mise en quarantaine en 2014. Donc on voit bien que les questions sanitaires vont jouer, risquent d'avoir des conséquences parce qu'il va y avoir une différenciation touristique. Et puis le questionnement sur la France, c'est un questionnement que vous avez probablement vu, toutes les destinations aujourd'hui essaient de nouveau de susciter des flux touristiques, mais elles essaient de ne pas concentrer le tourisme. C'est-à-dire, c'est les véloroutes ou les routes du vin, les routes de la pomme, les routes du tissage dans les Vosges, les routes du baroque. Alors, vous aurez dans le cahier français qui sortira en septembre un très bel article d'Ariane Fornia, qui est ce qu'on appelle une influenceuse dans le tourisme, qui liste comme ça tout ce que les destinations essaient de mettre en œuvre pour écréter la fréquentation, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le pic à la fois spatial et temporel, parce que c'est ça finalement le problème du tourisme de masse, c'est cette surfréquentation à un moment donné. Mais en fait, disséminer, ce n'est pas facile parce que les acteurs du tourisme, les hôtels, un hôtel qui reste ouvert toute l'année, ça lui fait des frais fixes très importants. S'il n'a pas de touristes, suffisamment de touristes, c'est pas rentable pour lui. Donc il faut essayer, on le voit bien avec la montagne, il y a un plan montagne qui vient d'être lancé. Comment on fait pour que la fréquentation de la montagne... Bernard a parlé des conséquences du changement climatique. Les stations de montagne sont terriblement menacées aujourd'hui par la perte de la ressource neige, donc de la ressource ski. Comment on fait pour proposer d'autres ressources sur toute l'année avec des activités de marche, de randonnée, de nouveaux sports et finalement, recréer le lien à la culture et au territoire avec des moyens qui ne sont pas des moyens lourds, qui sont des moyens vraiment de nouvelles activités qui concilient le ludique et le culturel.
Bernard Chéou, alors je pensais aussi, quand vous parlez, Sylvie Brunel, de ce tourisme de masse, on a visuellement en tête la masse des touristes, on voit bien les conséquences néfastes aussi sur les écosystèmes, sur les territoires, sur la biodiversité, et à un moment, on est obligé de protéger ces territoires contre justement les touristes et de fermer l'accès.
Oui, c'est ça. Alors souvent, aujourd'hui, il y a des interdictions de sites, le temps que ces sites se reconstituent, le temps que la biodiversité puisse... Alors il y a aussi des itinéraires balisés, c'est-à-dire qu'on fait des passerelles, il y a des chartes, on demande aux touristes, quand vous arrivez en Islande aujourd'hui, on vous demande de signer une charte qui est une charte de respect des écosystèmes. Donc, il y a énormément de réflexions. C'est un secteur qui foisonne parce qu'il sait en même temps qu'il est absolument essentiel pour l'activité. Il est essentiel.
Bernard Chéhoud, donc ça veut dire qu'il faut garder du tourisme, mais autrement, et l'encadrer autrement. On a quand même le sentiment que finalement, ça risque de passer par la prise de conscience aussi des citoyens. On a vu des initiatives comme le phénomène Flygscam en Suède, hein, le fly shaming, c'est la honte de prendre l'avion, par exemple. Est-ce que ça passera plus facilement par les citoyens qui, eux, ont la main, peut-être, pour décider de voyager autrement et de rentrer dans un tourisme autre plus que par des décideurs?
Je pense qu'il faut qu'il y ait... Ça peut pas être les uns sans les autres, moi, je dirais. Mais ce que j'ai envie de dire, quand même, par rapport à la situation actuelle et par rapport à ce qu'a pu décrire Sylvie, avant de répondre à la question, c'est que... Je pense que ça milite, en fait, pour une préparation de la transition. C'est-à-dire, on voit bien la dépendance au tourisme et les difficultés dans lesquelles ça peut placer tout un tas de populations, en Afrique ou ailleurs, ceux qui travaillent, quand il y a un arrêt brutal. Et c'est pour ça qu'il faut justement s'y préparer. C'est rien d'autre que ce que disent les collapsologues en disant qu'on ne peut pas attendre la catastrophe, il faut se préparer à cette catastrophe. En prenant le temps, en y réfléchissant. Et là, du coup, les citoyens peuvent jouer un rôle. On l'a vu avec... Je trouve que de ce point de vue-là, la convention citoyenne organisée par le gouvernement, elle a été intéressante. Elle a montré que des citoyens tirés au sort, lorsqu'ils étaient bien informés, encadrés, pouvaient prendre des décisions relativement équilibrées et ambitieuses. Donc même si elles n'ont pas toutes été reprises, je trouve que c'est une expérience qui est intéressante. Mais après, on voit aussi que s'il n'y a pas les pouvoirs publics, il manquera quelque chose aussi. S'il n'y a pas,
s'il n'y a pas de régulation,
il manquera quelque chose aussi. Donc moi, je pense que ce qu'on peut retenir de la pandémie, c'est justement un arrêt brutal. Quand on a un système en fonctionnement, si on a un arrêt brutal, ça il y a forcément des problèmes économiques qui en découlent.
Effondrement, il y a des problèmes d'effondrement.
Et du coup, c'est pour ça justement qu'il faut se préparer vers des activités avec moins d'impact de CO2, en termes de CO2, choisir d'autres activités. Alors sur les stations de ski, pour rebondir par rapport à ce qu'a pu dire Sylvie, il y a un exemple, c'est une station qui s'appelle Metabief. Ils se sont réunis, ils ont décidé collectivement. Donc là, on a aussi un exemple intéressant co-décision, co-construction d'un avenir. Ils n'ont pas décidé d'arrêter le ski de piste tout de suite, mais ils se sont dit... À terme, on n'aura plus de neige. Et du coup, il faut qu'on prenne notre avenir en main et qu'on choisisse d'autres activités, qu'on fasse autre chose. Alors que la plupart du temps, ils sont dans la poursuite pris avec des emprunts à rembourser. Donc, ils sont pris un petit peu dans un cercle vicieux.
Donc ça veut dire que c'est aussi un changement total de mentalité. C'est lutter contre la banalisation du voyager au bout du monde. C'est donc accepter peut-être de voyager autrement, à côté de chez soi, aller moins loin, moins souvent, rester plus longtemps aussi dans une destination lointaine. Si on part loin, c'est peut-être pour ne pas faire des sauts de puce et justement accroître l'empreinte carbone, mais essayer d'être plus responsable. Le tourisme de proximité, un tourisme plus lent, c'est un éloge à la lenteur. Ça veut dire que ça bouleverse notre façon d'être au monde et d'être aussi, ne serait-ce que dans le monde du travail. Le monde du travail, même le droit à la déconnexion a bien du mal à passer. C'est un total changement de mentalité quand même pour la société.
Oui, c'est l'idée que la consommation brutale, ostentatoire, sur une courte durée, sur des destinations très lointaines, ce qu'on avait quand même pris l'habitude avec les vols low cost, mais déjà depuis 2017, on voyait que la recette commençait à rencontrer ses limites, parce que même les compagnies, avant le Covid, se rendaient compte qu'il y avait... la honte de prendre l'avion commençait quand même à faire son chemin. Mais c'est certain que cette idée qu'on peut, l'espace d'un week-end, parcourir la planète, déjà devient plus compliquée. Elle est d'abord écologiquement scandaleuse, mais elle est aussi très compliquée parce que, comme vous le savez, les aéroports sont devenus des lieux extrêmement complexes avec tous les protocoles de sécurité. Donc, en fait, le virus va aider à mettre en place des process où, quand on part, il faut qu'on accepte tellement de mesures ralentissant le déplacement qu'on va partir plus longtemps peut-être moins souvent, mais plus longtemps. Et puis surtout, cette idée, les confinements nous ayant assignés à des périmètres restreints, nous ont permis de redécouvrir aussi les beautés de notre environnement, la biodiversité urbaine. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire que les agriculteurs, les paysans, en ont bénéficié, puisque aujourd'hui, bienvenue à la ferme, les gîtes ruraux, vous savez, c'était les journées nationales de l'agriculture ce week-end, énormément dans les nouvelles installations de jeunes agriculteurs, il y a un engouement aujourd'hui pour la ruralité. Cet engouement pour la ruralité se traduit par des nouvelles installations de jeunes qui essaient de produire avec un lien très fort, un lien à la terre, un lien à leurs voisins. Alors après, il ne faut pas trop l'idéaliser parce que les consommateurs sont versatiles. Et on s'est rendu compte aussi que le prix, c'était un critère, c'était le premier juge de paix. Et malheureusement, ils ont eu beaucoup de succès pendant le premier confinement et aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions. Donc tout ça aussi, ce sont des questionnements. Comment on fait pour garder cette ruralité vivante chez nous? Comment on fait alors que la moitié des agriculteurs vont partir en retraite au cours des 10 prochaines années pour demain conserver à la fois un tourisme de la ruralité, donc des territoires vivants, et en même temps notre souveraineté alimentaire.
Et que souvent, les enfants de ces agriculteurs ne veulent pas reprendre la ferme.
Parce que c'est dur.
Les néo-ruraux qui s'investissent avec une autre façon de concevoir le métier. Mais tout cela induit forcément aussi de la part des citoyens, c'est pour ça que je parlais de la part prise par les citoyens, une autre façon de concevoir aussi la consommation. Qu'est-ce qu'on veut consommer et du coup aussi, comment est-ce qu'on veut voyager? Anarchéou, je disais, le voyage, voyager finalement à proximité, à côté de chez soi, est-ce que c'est encore voyager?
Oh oui, déjà, par rapport à l'avion, ce qu'on peut dire, c'est que quand on se retrouve très très rapidement à l'autre bout du monde, où on n'a pas senti dans son corps l'effort que ça pouvait représenter, les changements que ça pouvait représenter, comme si on le faisait d'une autre manière. Donc, par tous ses sens. Et je pense que c'est beaucoup plus une question d'un état d'esprit qu'autre chose. Donc, on peut éprouver l'universel à côté de chez soi, dans une ville comme Paris, parce qu'elle est cosmopolite. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller loin pour rencontrer l'ailleurs. Vous avez une association qui fait des choses exemplaires, qui s'appelle Bastina, ici, et qui a mis en place des visites organisées de communautés de migrants ou de par ce qu'ils appellent des passeurs de culture. Donc on peut ici aller voyager en Inde grâce à des propositions. Donc je pense vraiment que c'est beaucoup plus une question d'état d'esprit que de prendre l'avion. Et peut-être même que si... Alors je dirais peut-être plus une disposition énergétique particulière qui n'est pas facile à atteindre. Il faut être ouvert, il faut être disponible, se donner du temps, s'offrir du temps pour rentrer dans cette disposition énergétique, être ouvert à tout ce qui peut se passer. Donc beaucoup plus que le fait de partir. Donc ça, on peut le faire aussi loin. Mais cette disposition particulière, c'est quelque chose qu'on peut travailler, quoi.
Sylvie Brunel.
Moi, je voudrais quand même revenir au problème des pays en développement et notamment des petits États insulaires en développement. Les petits États insulaires en développement, c'est une catégorie d'États. Et l'année 2014 était l'année des petits États insulaires en développement. Ce sont des États qui ont très peu de ressources endogènes. Ce sont des terres difficiles, les ressources sont limitées, l'émigration est importante. Et pour eux, le tourisme, c'est quelque chose d'essentiel pour créer de l'emploi. Par exemple, vous pouvez avoir certaines îles du Pacifique où 80% des emplois sont liés au secteur touristique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources en dehors de la plage tropicale, la beauté de cette plage qui, pour les autochtones, peut être un enfer parce que manque de ressources, parce que cyclone, mais qui, pour le touriste, l'espace de quelques temps, est un paradis. Et le problème aujourd'hui de ces États, qui sont nombreux dans le monde, il y en a plus une quarantaine, c'est que la honte de prendre l'avion, la montée en puissance des préoccupations écologiques, écologique tout à fait légitime, eh bien, conduit à leur désaffection, parce qu'on va choisir des pôles qui sont près des pôles émetteurs. Donc, par exemple, il va y avoir des concurrence entre les Antilles et le Pacifique. Les Antilles, c'est dans cette Méditerranée américaine. Alors, il y a les États-Unis, il y a les Brésiliens, il y a énormément de pouvoir d'achat. Mais dans le Pacifique, ben, ils sont extrêmement isolés et ils ont très peur. Très peur parce qu'ils subissent à la fois, bien sûr, les conséquences du changement climatique avec la dégradation de leur territoire, la montée des eaux, etc. Mais en plus, ils se demandent ce que seront demain leur souveraineté étatique s'ils doivent quitter leur territoire, parce que, bien sûr, leur territoire à la fois est dégradé par la montée des eaux, mais aussi parce que plus personne ne vient pour leur apporter des revenus, puis aussi des constructions leur permettant de se protéger. Parce que quand vous avez 2 mètres maximum d'altitude sur un atoll, il faut penser, il faut aussi anticiper comment on fait demain pour vivre sur ces atolls. Alors, vous voyez, cette question de dire on va juste privilégier le paysage familier, il ne faut pas passer par perte et profit des millions de personnes pour lesquelles la ressource touristique, c'est un moyen à la fois de développement, de reconnaissance de leur identité et de leur valeur, mais aussi de préservation de leur plage. Parce que comment on fait quand on n'a pas de revenus pour maintenir les plages, pour replanter, pour préserver la biodiversité? Vous regardez les Seychelles, par exemple, ils ont une politique écologique extrêmement avancée, à mon avis même un tout petit peu trop avancée, parce qu'ils éliminent férocement ce qui se considère être les espèces invasives. Vous savez, ça dépend où on met le curseur, mais le perroquet rouge de Madagascar détruit au nom du perroquet gris des Seychelles, ça fait un peu mal au cœur quand même. Mais voilà, enfin bref, ce sont vraiment des réflexions qui font qu'on ne peut pas dire juste on va bannir le tourisme de haute distance, parce qu'on a besoin aussi de la diversité du monde. Et les îles, on a besoin des îles. On en a besoin pour des raisons géopolitiques, bien sûr, mais on en a aussi besoin pour des raisons pour notre imaginaire. Et ce que porte la culture de l'île, c'est très fort dans la mondialisation.
Oui, on sent que l'équilibre est délicat et complexe, parce que d'un côté, comme vous le dites, il faut sauver aussi leur potentiel de vie, c'est-à-dire de ressources. Mais d'un autre côté, ces États insulaires du Pacifique notamment sont effectivement sous cette épée de Damoclès de la montée des eaux. Et le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre sont responsables aussi de cette épée de Damoclès.
C'est un paradoxe.
C'est très compliqué. Oui. On va peut-être passer aux questions, s'il y a des questions, alors dans la salle aussi, et Chloé nous dira s'il y a eu des questions sur Facebook. Est-ce que les uns les autres, vous voulez poser des questions à nos invités?
Alors pour l'instant, je n'ai pas de questions sur Facebook, donc n'hésitez pas.
Non. Ou est-ce qu'on
a des commentaires
très complet, ou des commentaires, ou partager des expériences peut-être, ou cette notion de voyage. Est-ce que la pandémie que le monde a subie vous a fait réfléchir aussi, ou, voilà, vous pouvez un partage d'expérience, non? En attendant, peut-être, en tout cas, si vous avez... Ah, là, je vois qu'il y a une main qui se lève, n'hésitez pas.
Bonjour, merci pour votre intervention. Donc, on a vu avec la Covid, comme vous l'avez dit, qu'il y a une vraie remise en question, je dirais, peut-être surtout de la part des jeunes qui voient toutes ces problématiques au travers des réseaux sociaux. Je vais parler des jeunes, parce que je ne vais pas parler pour d'autres générations. Est-ce que, donc on a bien compris qu'il y avait la question de changement de mentalité, mais on voit aussi que dès qu'on a la possibilité de repartir en vacances et de voyager, beaucoup de personnes, jeunes, moins jeunes, n'hésitent pas à reprendre l'avion, le bateau, etc. pour aller à Dubaï, qui a été une destination très prisée, même pendant les confinements. Est-ce que pour appuyer ce changement de mentalité, le gouvernement a un rôle à jouer, ou est-ce que, au contraire, alors je parle en France, ou au contraire, il n'aura finalement que peu d'impact et ça doit venir d'autres acteurs, peut-être plus proches des acteurs municipaux, des acteurs régionaux. Merci.
Qui veut répondre ? Bernard Chéhoux, allez-y. Oui, et l'un et l'autre, oui.
Engagé dans quoi ?
Dans la thèse.
Ah, mais la question, là, c'était... Je ne l'ai pas lié à la thèse, moi, mais bon.
Mais vous pourrez le faire.
Oui. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Effectivement, le diagnostic qui est formulé, il est bon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'on revienne comme avant. Il est question de revenge travel, donc de récupérer en fait tous les voyages qu'on n'a pas pu faire à cause des confinements, tout ça. Et on voit bien, hein, dès qu'il y a la fin d'un confinement, que ce soit pour de la consommation touristique ou autre, qu'il y a quand même facilement un retour au comportement précédent. Donc pour plein de catégories de population, c'est sûr que on sera dans la volonté de revenir à ce qui précédait, et il n'y aura pas de réflexion. Moi, je pense personnellement que ceux qui sont déjà engagés dans un parcours de réflexion, eux, ils vont évoluer grâce à la pandémie, mais les autres, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est faire comme avant. Oublier la pandémie, oublier cette parenthèse maudite, et puis recommencer leur vie comme avant. Donc, est-ce qu'il faut des mesures radicales ? Personnellement, je j'y crois pas, parce que il faut convaincre, il faut... Alors, c'est compliqué, on pourra jamais convaincre tout le monde, mais je pense que... je reprends l'exemple de la Convention citoyenne, où il y en a sûrement qui n'étaient pas d'accord avec les mesures qui ont finalement été choisies collectivement. Avec un processus encadré, éclairé, on peut arriver. Donc moi, je serais plutôt pour des instances de ce type, ou comme l'exemple que je prenais de Metabief, où ils se sont réunis ensemble et ils ont décidé collectivement. Il y en a qui étaient contre le fait d'arrêter le ski, mais ils ont réussi à trouver un consensus collectif. Et du coup, après, la décision, elle sera mise en œuvre et appropriée, alors que si on... Peut-être qu'on sera obligé de forcer, parce que de toute façon, s'il n'y a pas des mesures radicales de la part des États, de toute façon, un jour, on ne pourra plus se déplacer ni dans les îles parce qu'elles seront sous l'eau, donc il ne sera plus question d'y aller, ni ailleurs parce qu'on aura le réchauffement climatique.
Mais il y aura eu inégalité à partir de là et des dommages collatéraux avec des migrants du climat. Et bon, c'est loin pour l'instant des yeux, donc loin du cœur, mais c'est quand même aussi des prises de conscience qui doivent pénétrer nos sociétés. Mmh. Sylvie Brunel, oui, en fait, la question qui se pose aussi, c'est...
Oui, c'est une question qui est essentielle.
Pollueur-payeur, ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas aussi taxer?
Alors en fait, c'était une intervention qui était tout à fait nécessaire, parce que c'est vrai que quand on regarde la courbe touristique, on se rend compte que chaque fois qu'il y a un drame, il y a un creux, il y a une chute, mais que la courbe reprend et elle augmente de façon exponentielle. On considère qu'il y a à peu près 50 millions de touristes supplémentaires chaque année dans le monde. Alors là, il y a bien sûr l'interruption liée au Covid, mais on pense qu'en 2023-2024, on aura absorbé... Enfin, si on arrive à vaincre, bien sûr, les variants, etc. Mais enfin, on aura absorbé et la courbe reprendra. Et du coup, ça nous renvoie à une question essentielle, au-delà de cette prise de conscience, des jeunes du monde, et vous avez raison d'en parler, mais à l'action des régulations. Et on se rend compte que, finalement, là où les États, les communes, les différents niveaux ont une volonté d'encadrer les flux touristiques, c'est-à-dire de limiter, par exemple, par des quotas, l'accès à certains sites, voire d'interdire l'accès à des sites fragiles, de réserver certains lieux. La Grande Barrière de Corail, on sait très bien à un moment qu'elle a été à la fois sauvée par le fait que le regard touristique a fait que les Australiens se sont dit « Ah oui, on va pas la dynamiter », mais qu'aujourd'hui, eh bien, le surtourisme à certains endroits aboutit à la dégrader, et qu'en plus, les Australiens se posent la question de l'accès à certaines ressources. Donc, on a de nouveau cette tentation de détruire l'écosystème à certains endroits. Donc, cette idée que certains lieux vont être sacrifiés sur le plan naturel, parce que finalement, on peut pas demander à des gens qui arrivent dans la consommation touristique, qui sont des nouveaux entrants, ils n'ont pas encore cette prise de conscience. Le touriste, c'est comme un vin, il se bonifie avec le temps, il grandit avec le temps, il grandit avec le temps de sa civilisation et le temps aussi de ses pratiques. Et ceux qui disent aujourd'hui à quoi bon voyager, c'est souvent des gens qui ont déjà voyagé et qui peuvent dire mais on n'a pas besoin de tout ça. Oui, mais quand on a vu le monde, c'est plus facile de le dire. Donc en fait, on a besoin aujourd'hui qu'à la prise de conscience des individus, s'accompagne un interventionnisme public, communal, régional, national, pour orienter, canaliser les flux touristiques de façon intelligente, sachant que quand vous avez des touristes, vous avez aussi, bien sûr, de la production de déchets, mais la contrepartie, c'est que vous avez des routes, vous avez du désenclavement, vous avez de la production d'eau potable, vous avez des dispositifs d'assainissement qu'on peut financer et qu'on ne finançait pas jusque-là. Vous avez des politiques sanitaires, on va se mettre à lutter contre le paludisme, on va se mettre à lutter contre la dengue ou le chikungunya. Donc finalement, il y a un double mouvement. Un mouvement de création de développement et un mouvement d'effets négatifs. Mais ces effets négatifs ne se produisent que si c'est l'anarchie, que si on laisse faire, si chacun fait ce qu'il veut. Or, on se rend compte que des destinations extrêmement fréquentées aujourd'hui sont très exigeantes aussi ce qu'elles attendent de leurs touristes. Et que c'est probablement ça, là, comme il y a une culture de la fréquentation de certains lieux, on ne fait pas n'importe quoi dans des lieux religieux, par exemple, on ne fait pas n'importe quoi non plus dans des sites touristiques. Et ça va être aussi cette éducation touristique. Je crois qu'elle est extrêmement importante. Hein, l'éducation au tourisme, l'éducation au respect des écosystèmes, des populations. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, moi j'ai écrit un livre sur la Disneylandisation. La Disneylandisation, c'est merveilleux parce que ça permet de mettre en avant des traits culturels. Hein, des lieux se transforment en décors et les gens se disent « Ah ben, finalement, on va aller là parce que ce lieu, il porte en lui quelque chose d'unique. On va aller à Luang Prabang, au Laos, on va aller à Salvador de Bahia, on n'y serait pas allé probablement s'il n'y avait pas Disneylandisé. » Alors ce terme, il peut apparaître extrêmement négatif, mais c'est aussi ce qui fait prendre conscience à certaines civilisations de la valeur d'une culture qui sinon aurait été détruite. Les aborigènes auraient été détruits s'il n'y avait pas eu ce regard touristique. Donc, il faut ne pas voir la Disneylandisation uniquement comme quelque chose de destructeur, il faut voir aussi comme une opportunité. Mais cette opportunité, elle n'est acceptable que si la manne touristique est correctement répartie, et les associations comme celle de Bernard travaillent beaucoup sur cette question de la répartition de la manne. Est-ce que c'est le tour opérateur qui prélève la manne, ou est-ce que ce sont des communautés locales, des écolieux, est-ce qu'il y a cette possibilité aujourd'hui de faire attention que ce qu'on fait ne soit pas de la bulle hors sol, ou de la consommation au sol. Et puis il y a aussi la question du foncier. Et le foncier, vous le savez bien, il y a des tas de gens qui ne peuvent plus vivre dans des lieux touristiques parce que le prix du foncier a flambé. Donc on essaie aujourd'hui d'interdire les plateformes de réservation qui permettent à chacun de mettre toute l'année son appartement en location touristique. Et vous savez qu'à Paris, la maire de Paris essaie de lutter contre cela. Donc il faut un interventionnisme. Parce que le tourisme ne peut pas être livré juste à la loi du plus puissant, du plus fort, du plus nombreux. Voilà, c'est un secteur comme un autre qui doit donner lieu à des régulations.
Bernard Chéhoux, encadré, réglementé. L'équité qui a été prononcée aussi par Sylvie Brunel, c'est important parce que je sais que vous y êtes très attachée. Et donc éduquer au tourisme d'aujourd'hui et de demain, éduquer au respect de la nature, du vivant et des populations locales.
Oui, complètement. Effectivement, éduquer, mais le changement de mentalité, il est compliqué. Le changement d'imaginaire, il est compliqué à atteindre. On reste quand même dans un imaginaire et on a un monde qui fonctionne d'une certaine manière. Et même si, par exemple, vous allez partir pour faire du tourisme lent, prenant le temps, si quand vous revenez, vous retrouvez votre travail avec le même rythme et que du coup, on est toujours dans le même système et dans le même fonctionnement, on aura eu affaire à ce que le sociologue allemand Rosa appelle une oasis de décélération. Mais c'est, pour lui, ce n'est pas une solution parce qu'on ne sort pas du système problématique qui nous mène à la catastrophe. Et la véritable réponse, c'est d'essayer de sortir de ce système-là. Et c'est peut-être là qu'on se distingue. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est... Je rejoindrai Rosa quand il dit que c'est notre volonté de contrôle de notre rapport gestionnaire au monde qui est problématique et qui nous a amené là où nous en sommes. Et donc, il faut arriver à nouer une relation éthique et sortir de ce rapport de consommation et de gestion permanente. Et donc, la régulation, c'est aussi l'expression de cette gestion, de cette optimisation permanente. Donc, on va chercher des solutions, mais dans le même système, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est changer de système si on veut vraiment s'en sortir. Donc, toutes ces solutions-là, elles sont nécessaires maintenant dans ce système, mais ce qui vraiment nous permettra de nous en sortir...
C'est une décélération.
C'est une décélération.
Tout en gardant une société...
Une décélération. Et de le préparer, parce que sinon, si on ne le prépare pas, on va se retrouver avec... avec des choses qu'on n'aura pas choisies, qu'on n'aura pas décidées, qui nous seront imposées, un chaos mondial qui est décrit, pas seulement par des écologistes, des uberlus, mais par des structures aussi sérieuses que l'armée américaine, qui fait de la prospective sur ce qui peut se passer du fait du réchauffement climatique.
Une décélération, mais qui va aussi avec une société pour aujourd'hui et demain qui fasse rêver et qui soit appelée par le désir aussi je dis ça parce que souvent les mots décroissance, décélération, ça a un côté punitif. Il faut, pour aboutir à un changement, donner encore du rêve, c'est-à-dire donner l'envie d'accéder à ce genre de société aussi pour demain.
Oui, mais est-ce que ça fait rêver de ne pas être capable d'être parce qu'on est interrompu sans cesse, parce qu'on n'a pas le temps, parce que, je ne sais pas moi, si c'est la société dont on veut, si c'est cette société où on n'a plus un moment.
Et une décélération qui peut s'imaginer dans des pays déjà ultra développés, mais difficile à demander dans des pays qui veulent juste accéder au nécessaire, au moins pour une vie normale.
Évidemment.
C'est la part à prendre entre les pays du Nord et les pays du Sud, certainement, Sylvie Brunel.
Oui, et il ne faut pas oublier qu'un milliard de personnes vivent dans l'extrême pauvreté, qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, qu'ils n'ont pas accès à une alimentation correcte, qu'ils meurent de maladies qui pourraient être aisément évitées et que l'intérêt que leur portent les touristes permettent de financer des activités créatrices de revenus, permettent aux femmes d'avoir d'autres activités que d'être enfermées dans la sphère domestique. Elles leur permettent de s'émanciper. Et cette envie aussi, quand quelqu'un quitte la pauvreté, de ne plus être dans la mobilité, dans la pénibilité, mais d'être dans une mobilité choisie, une mobilité pacifique, l'envie de découvrir l'ailleurs, l'envie de faire une rupture avec un temps qui est consacré tout le temps au travail, l'envie de la détente, c'est très important, ça fait partie de notre civilisation humaine. Et donc, je pense que le tourisme, ce terme est souvent péjoratif, mais le tourisme, c'est aussi la culture du beau et de l'émerveillement.
Mais c'est ce tourisme autrement, Bernard Chéhou, je vous sens inquiet, mais ce tourisme autrement, bien sûr. Et en tout cas, ça rejoint aussi la demande des pays du Sud vers les pays du Nord, qui demandent quand même, ces pays du Sud, à ce que les pays du Nord prennent grandement leur part dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas pour rien, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, peut-être, parce qu'on va arriver au terme de la rencontre? Voilà, monsieur.
Bonsoir, merci. Bonsoir. Beaucoup pour votre intervention. Alors, je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être une réflexion, mais je suis sûr que vous saurez rebondir dessus. Vous parlez effectivement qu'il y a ces pays riches où les gens partent en vacances, voyagent, etc. N'oublions pas que même dans les pays riches, il y a des gens qui ne partent pas en vacances, qui ne voyagent pas. C'est pas parce qu'en 36, il y a eu des congés que tout le monde est d'un coup parti en vacances. Et c'est pas parce qu'il y a des RTT que les gens partent tous les week-ends non plus. Aussi, dans ces pays pauvres, même s'il y a un accès, une amélioration de la condition... comme vous le dites, tous les Chinois partent pas en France pour aller visiter la Tour Eiffel, etc. La question que je me pose, enfin cette réflexion, c'est que on peut s'interroger sur le partage de la richesse générée et la prise en charge de cet effort. C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément les pays riches et ceux qui organisent les voyages et ceux qui mettent à disposition cette possibilité d'aller au-delà de l'endroit où on vit, qui doivent prendre tout le bénéfice. Donc je vends du voyage, donc c'est moi qui gagne les bénéfices, mais ceux vers qui j'emmène les voyageurs, ils voient sur place. Est-ce qu'il n'y a pas un partage du gain? C'est peut-être un peu facile comme phrase, mais vous parlez d'améliorer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche de l'équilibre d'une certaine voie du milieu, sans aller vers une religion bouddhiste, mais une voie du milieu où, vous parlez de régulation. Lorsque on se déplace de Paris à Lyon en voiture, on pourrait considérer qu'il est utile, il est indispensable de multiplier les voies de communication, et on pourrait, comme on peut le voir dans certains endroits aux États-Unis, décupler les voies de communication, les autoroutes avec 6, 8 voies, etc. Or, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est pas forcément indispensable toute l'année d'avoir un tel volume, une telle capacité. Donc, la recherche n'est-elle pas, au travers de nos gouvernements, qui peuvent s'entendre aussi, s'entendre entre pays riches et pays pauvres, sur une voie du milieu, sur un équilibre du partage, des gains, du voyage et du déplacement?
Qui veut répondre? Bernard, Bernard Chéou?
Oui, donc la question est intéressante. Je pense que si on réunit les pays pour qu'ils se mettent à discuter de ça, ça va être compliqué pour qu'ils aboutissent.
Oui, mais enfin, c'est quand
accord.
même le rôle de l'Organisation mondiale du tourisme, que les gens se réunissent. Oui. Et finalement, ce que vous dites, c'est très juste. D'abord, de se souvenir qu'en France, il y a encore... c'est le rôle du Secours populaire, du Secours catholique, d'essayer de faire que des familles qui ne partent pas, toujours pas en vacances puissent le faire. Et alors justement, leur donner accès à ces enfants, aux plages, à la campagne, etc. Donc, cette notion de juste milieu, d'équité, le tourisme équitable, on en a parlé, le tourisme équitable, c'est de faire en sorte que la manne soit répartie sur toute la chaîne de façon équitable, de façon partagée, pour que même celui qui finalement, qui n'est pas un consommateur et un récepteur, c'est-à-dire que celui qui est sur place et qui finalement voit arriver le tourisme, eh bien, il y ait un lien, il y ait un échange, et que cet échange grandisse les deux partenaires. Et d'ailleurs, on a beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle du tourisme participatif. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre comment les gens vivent, on va essayer de partager leur quotidien. Ce sont des formes de tourisme qui se développent, qui restent encore minoritaires, parce qu'elles demandent, bien sûr, une démarche volontariste de la part du tourisme. Puis il ne faut pas que ça devienne non plus trop punitif. Il ne faut pas qu'on soit dans rendez-vous en terres inconnues, qui est un peu, vous voyez, on pourrait en discuter un peu sur le concept. Mais bon, peu importe, c'est pas le but, et puis c'est la fin de cet entretien. Mais je trouve que vous avez tout à fait raison de remettre finalement l'église au cœur du village et de rappeler ces choses qui sont absolument nécessaires.
Vous voulez ajouter quelque chose, Bernard Chéou?
Oui, moi ça me donne envie de faire un pas de côté, puis de rappeler aussi que on favorise les déplacements des touristes, mais il y a plein de gens qu'on empêche de se déplacer. Donc, les migrants. Donc, on a vraiment là, quand on parle de tourisme équitable, hein, et donc, quand Sylvie décrit le tourisme participatif, en fait, c'est exactement ce que proposent les associations de tourisme équitable. Mais il y a quand même un problème d'équité de ce point de vue-là. On n'est pas libre de se déplacer de la même manière partout sur la planète. Donc, les touristes, ils peuvent, occidentaux, ils peuvent aller où ils veulent. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, sont bloquées chez elles et qui ne peuvent pas se déplacer comme elles l'entendent.
Alors, on arrive au terme de cette rencontre. Allez, juste une dernière question pour tous les deux, quand même. Est-ce que vous-même, vous avez commencé à adapter autrement votre façon de voyager? Sylvie Brunel.
Alors, moi, j'ai fêté mes 60 ans et je me suis rendu compte que ça changeait ma vie parce que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Je travaillais dans l'humanitaire, via Action contre la faim, Médecins sans frontières. J'ai fait 2 tours du monde. Et là, j'ai regardé le monde et je me suis dit, mais... j'ai envie de... Et les confinements ont joué un rôle essentiel. J'ai envie de savourer aussi mon univers. J'ai envie de prendre le temps de regarder autour de moi. J'ai envie aussi de mieux connaître la France. Et je pense que je ne fais que représenter une tendance aujourd'hui chez les Français, c'est-à-dire l'envie aussi de se recentrer. Et en même temps, de par ma spécialité, qui est professeur de développement durable à la Sorbonne, c'est vrai que je suis toujours très préoccupée par les expériences de développement. Mais je ne veux pas utiliser cet argument pour consommer du voyage en disant « Oui, mais moi, c'est pour des raisons professionnelles, comme font tous les gens qui nous donnent des leçons en permanence et qui passent leur temps à voyager. » Donc moi, je ne ferai pas ça.
Bernard Chéou ?
Alors... en termes d'évolution de ce point de vue-là, moi j'ai commencé il y a longtemps quand il n'était pas encore question de dégâts écologiques du voyage, quand on n'y pensait pas du tout, à réduire le nombre de destinations, à ne plus aller dans de nouvelles destinations pour parce que je me disais, je préfère retourner dans une destination où je me suis déjà rendu pour retourner voir les gens que j'ai rencontrés, des communautés par exemple en Équateur, ou et non pas renouer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes pour des raisons, pour pas me disperser, pour maintenir des liens plutôt que d'en créer de nouveaux de partout. Donc ça, c'était il y a au moins 20 ans. Hein. Après, ça fait longtemps que je suis attentif aussi à la durée. C'est-à-dire que quand professionnellement, puisque je voyage quand même très peu pour des motifs personnels sur du long courrier, aujourd'hui, depuis pas mal d'années, mais professionnellement, je suis amené à voyager. Et donc, je reste au minimum deux semaines. Par exemple, je m'occupe d'un partenariat avec le Vietnam. Donc, c'est à chaque fois j'y pense quand j'y vais, parce que c'est du long courrier. Mais je me rends là-bas pour le partenariat, pour donner des cours. Mais je n'irai pas pour moins de 15 jours. Donc, j'essaye de faire attention de ce point de vue-là. Voilà ce que je peux dire. Sinon, ce qui me semble important aussi, c'est de ne pas vouloir voir beaucoup de lieux. Je suis parti au Vietnam et je me dis je reste dans le sud pendant un mois de vacances. C'était lié à une mission d'enseignement et je me suis dit j'en profite pour mes vacances, pour y rester du coup. Comme ça, j'ai un seul déplacement en avion pour à la fois professionnel et puis je reste dans le même coin plutôt que de courir de partout pour voir plein de choses, mais en fait de ne rien voir. Donc voilà ce que je peux dire.
Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos livres. Sylvie Brunel, La planète Disneylandisée pour un tourisme responsable. Donc, c'est paru chez Sciences Humaines et à paraître, je le rappelle également, en septembre, un numéro des cahiers français sur le tourisme. Et Bernard Chéhou, on peut conseiller votre livre Du tourisme durable au tourisme équitable, paru chez De Boeck. Et donc, je rappelle aussi à tous que vous pouvez retrouver ce cycle de conférences sur le site de la BPI et sur la page Facebook. Merci à tous ceux qui étaient présents dans la salle et tous ceux qui étaient derrière leurs écrans. Merci beaucoup.
Merci.